saine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour, quatrième semaine de confinement, André Duny. Sur Radio Couleur Chartreuse, la CEN Cause, Nouvelle Éducation Populaire. Eh bien écoutez, je vais vous donner quelques-unes de mes réactions à l'aube de cette quatrième semaine qui doit vous peser peut-être tout autant que moi et qui est une occasion qu'avaient rêvé dans les années 70 certains écologistes un peu foufou qui disaient « on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste ». Là, c'est un petit peu plus triste parce qu'on ne sait pas bien comment va évoluer ce virus. Hein. On peut retomber malade même après avoir été immunisé par lui sans être sorti. C'est pas évident du tout qu'on n'ait pas à traîner ça assez longtemps. C'est une maladie. Alors, première hypothèse, je crois que c'est une maladie un peu, on va dire, industrielle, mondialisée, pour faire un peu différemment de réflexion technique. Cette épidémie en cours concentre puis met en lumière, une lumière crue, toutes les tares des civilisations industrielles, capitalistiques, mondialisées, globalisées, financiarisées dans laquelle nous sommes. Ça met une lumière crue sur les inégalités, ça met une lumière crue sur l'état de notre système de santé, de notre démocratie, et on va essayer d'en parler un petit peu, même si tout ça c'est parti de Chine. Eh bien, on peut dire que premièrement, c'est une maladie qui a beaucoup à voir avec la destruction de la nature. Alors je sais, il y a deux hypothèses. Une, les chauves-souris chassées de leur habitat naturel, etc. Les élevages gigantesques de cochons pour le H1N1 et d'autres maladies. Ces concentrations animales sont porteuses de virus qui transitent vers l'homme à partir de la destruction des habitats naturels. Hein. Bon. Alors, ça arriverait pas si on avait une petite agriculture familiale comme on avait avant, voilà. Et c'est tout à fait possible d'y revenir, on appelle ça une relocalisation, une démondialisation, appelez ça comme vous voulez, où on n'aurait pas des élevages de 10 000 porcs, 650 000 poulets, voilà, et des fermes de 5 000 vaches, 1 000 vaches. Bon, en France, ça y est, on a plusieurs fermes de 800 vaches. Aux États-Unis, il y en a une de 45 000 vaches où il faut prendre un 4x4 pour aller d'un bout à l'autre, les traire. C'est dans un océan de merde et ça s'appelle l'agriculture agro-industrielle, chimique hyper concentrée, quoi. Voilà. Donc ça met une lumière crue sur cette mondialisation-là de la malbouffe, de l'élevage industriel, de la surconsommation de viande. 1 milliard d'animaux tués en France chaque année. Bon, je sais que pour l'instant, nous en sommes à 20 000 morts. C'est un petit peu plus que donc tous des gens qui sont malades, sauf quelques exceptions, hein, de gens qui sont vieux ou malades. C'est pas une raison pour qu'ils meurent, bien entendu. Loin de nous, cette idée. Mais c'est un petit peu plus que ce qui est arrivé avec la canicule de 2003. C'est plus que les grippes saisonnières. C'est infiniment plus qu'à la sortie de la guerre de 14-18, où on a eu cette grippe espagnole qui contamina un tiers de la population mondiale et fit au moins 50 millions de morts en 2 années. À la fin de la guerre, 18-20, enfin 1918-1919, oui, c'était encore pendant la guerre, puis après la guerre, on a eu plus de 50 millions de morts. On n'en est pas encore là. On n'en est pas non plus à la peste au Moyen-Âge, elle-même liée à déforestation massive pour fondre les épées, etc., faire le charbon de bois, hein, pour l'industrie de l'époque naissante, qui était à l'intérieur du système féodal, et qui avait vu un ravage de quasiment les 2/3 de la population. Voilà, ça n'est pas si gravissime que ça, mais c'est quand même qu'on se fout de notre gueule. Deuxième point, j'aimerais dire que, voilà, du point de vue de la démocratie, eh bien, il y a quelque chose qui se fait totalement vertical, Et plus on chasse à l'hélicoptère sur les plages des gens, comme le disait notre ami Lepage, hein, qui appartient à la Nouvelle Éducation Populaire, enfin pas la scène, mais qui fait partie de ce courant-là de la SCOP, le pavé devenu d'autres SCOP qui ont décimé. Eh bien, Lepage faisait remarquer que la gendarmerie avait dépensé à 4000 euros de l'heure des hélicoptères pour chasser des gens qui prenaient l'air sur les plages. On a une répression inouïe, totalement disproportionnée. Quand on nous prend pour des cons, au lieu de s'adresser à l'intelligence des gens, comme à Taïwan, on l'a vu, en Corée du Sud, enfin bon, c'est pas des modèles, hein. Mais il y a quand même eu, avec la population, un tout autre rapport de bien expliquer comment chemine le virus. Et du coup, ben, ils ont infiniment moins de cas, parce que dès qu'il y a des cas, ils ont les moyens, ils isolent, et ils isolent, et ensuite ils remontent la chaîne des contaminations, ce qui permet d'éviter la propagation. Nous, comme on n'avait plus rien, eh ben voilà, les stocks s'étaient envolés de masques, de gants, de protections diverses et variées, on n'a pas, voilà. Eh bien, on a dû faire dans la répression, parce que plus on est nul quand on est dominant, plus on accable dominé. Dans tous les domaines, alors là, plus on est nul dans la gestion de cette crise, c'est pas nul en fait, plus on est libéraux, on a détruit l'hôpital largement, et ensuite on constate qu'il n'y a pas assez de lits, et donc du coup il faut confiner un max, et d'une façon sévère pour éviter qu'il soit se débordé et que ça fasse trop mauvais dans le tableau. Donc, il y a eu combien ? 13 millions et demi de contrôles policiers par 160 000 gendarmes, et il y a eu 800 000 personnes qui ont payé soit 135 euros, soit 900 euros, soit même plus pour les récidivistes. Je dis pas qu'il fallait sortir, je dis que c'est insensé et répressif, trop répressif, précisément visant à cacher la réalité. C'est quoi la réalité ? Bah écoutez, si on regarde bien le nombre de lits entre les différents pays, eh bien, on a d'assez grosses surprises, hein. Je me suis permis de faire ce relevé-là. Je l'ai sous les yeux. Nombre de lits France 2018, selon l'OCDE, hein, l'Office de coopération de développement. C'était ce qui a été créé à la fin de la guerre pour mettre en liaison les 30 pays les plus développés de la planète. Eh bien, écoutez bien, en France, on a 5,98 lits pour 1000 habitants, hein. 5,98. Il y en a 8 en Allemagne, il y en a 7,37 en Autriche, 12,27 en Corée du Sud, qui a beaucoup mieux géré, mais qui n'a pas besoin de tous ces lits, précisément parce qu'elle a très rapidement eu des tests de dépistage, très rapidement au moins pris la température et isolé les personnes présentant les symptômes. 13 au Japon. Vous vous rendez compte qu'au Japon, il y a plus du double de nos lits. Il y en a 8 en Russie, dont on dit que le système de santé n'est pas terrible. Il y en a 2,77 aux USA. Deux fois moins que chez nous. Il n'y a qu'à voir le désastre qu'il y a aux USA. Désastre économique. 20 millions de chômeurs en 15 jours. Faut le faire, hein. Et voilà. Et puis l'impréparation par cette espèce d'impérialo-fascizo-libéralo-extrême Trump fait que les USA payent le prix fort, parce que voilà, ils ont pas les structures. De toute façon, aux USA, hein, si vous n'êtes pas assuré, vous cassez un poignet, c'est 25 000 euros la réparation, hein. C'est arrivé à un de mes amis. Et point terminé. Si vous n'avez pas de pognon pour vous soigner, vous n'avez pas de sécurité sociale. Au Canada, 2,5 lits, encore moins qu'aux USA, encore plus libéral. Australie, pareil. Donc voyez, on a, et puis l'Espagne, 3. C'est-à-dire à peu près deux fois moins qu'en France également. Et voyez dans quelle situation est l'Espagne. Donc on a une crise qui suit largement la destruction des services publics par nos élites mondialisées et nos élites libéralisées, nos élites capitalistiques qui font de l'État l'appendice de l'économie privée, de l'économie multinationale, l'économie bancaire. Voilà, ils louent actuellement notre modèle de protection sociale. Ils disent qu'ils vont tout faire pour désormais le protéger, mais ils l'ont démoli depuis Mitterrand. Ça a commencé avec Mitterrand, toute cette affaire, au tournant de la rigueur en 1883. Ils n'ont eu de cesse de détruire la sécurité sociale. Voilà, je voulais juste également, si vous me prêtez encore un petit peu d'attention, hein, je suis toujours un petit peu véhément, un petit peu révolté, mais vous comprenez ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le souci des gens et le souci du peuple. Et moi, j'ai fait partie du peuple le plus pauvre qui soit en France. je n'ai pas relié ces origines-là. Quand on regarde la sécurité sociale, qu'est-ce qu'on a eu en 1945 ? On avait des caisses devaient être autogérées par les ouvriers qui cotisaient et par les patrons qui cotisaient. Mais c'était les ouvriers qui avaient imposé aux patrons. À l'époque, le rapport des forces était clair et net, hein. Il y avait une CGT avec 5 millions d'adhérents, il y en a 10 fois moins aujourd'hui. Il y avait un parti communiste, on peut dire ce qu'on veut sur l'histoire, mais il est là, c'est lui qui a dans le Conseil national de la résistance, le plus poussé en avant l'histoire de la Sécu, dont Ambroise Croizat, député, a été le rapporteur à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, cette sécurité sociale est étatisée. Elle est même plus qu'étatisée, puisqu'avec Mitterrand et Rocard, avec la CSG, elle est devenue, il y a un complément imposition CSG pour, soi-disant, emboucher le trou que font allègrement toutes les multinationales qui ne payent pas leurs impôts ou ceux des riches en France qui font massivement de l'évasion fiscale et de la triche fiscale en plus. Qu'est-ce que disait Ambroise Croizat ? Jamais nous ne garantirons l'accès à la santé pour tous si la nouvelle sécurité sociale, il disait ça en 46, hein, donc un an après la guerre qui avait ravagé notre pays, n'est pas gérée par les intéressés eux-mêmes. Elle est inspirée par le souci démocratique de confier aux travailleurs la direction de leur propre institution et la gestion de leur caisse de manière à ce que la sécurité sociale soit le fait non d'une tutelle paternaliste ou étatiste, mais de l'effort des bénéficiaires eux-mêmes. Ben voilà. Les ouvriers bénéficiaires de l'assurance chômage, de l'assurance maladie, de la retraite et de l'hôpital, de la santé, doivent gérer eux-mêmes la sécurité sociale. Maintenant que c'est l'État, vous avez vu dans quel état l'État a mis la Sécu et donc l'hôpital, puisqu'il n'y a eu que 2500 lits de disponibles de réanimation dans un pays où il y en avait jadis deux fois plus. Après, bien sûr, qu'on a libéré des lits, ça faisait 5000, puis on a ensuite libéré encore d'autres en retardant des opérations ou dans d'autres services, en rappelant des retraités, des volontaires, etc. On est arrivé à 7000 lits. Et ben, voyez, la France a deux fois moins de lits que certains de ses voisins, tout aussi libéraux qu'elle.
Personne raturée, mise sur côté, dénigrée, rationnée de ségrégation, épiderme couleur du péché. Chante pour cracher, expulser un cliché caché quand t'es pourpre. Ta venue au monde, faut la justifier. Litanie plaidoyer, on chante pour sécher des trémolos dans lesquels on nous a noyés. Malédiction de chat mal légitimé, l'esclave purpurin. L'homme jugé animal fini domestiqué par un maître chien pour aboyer. On chante des gospels contre l'instruction des missionnaires. Dites à Dieu que les animistes lui pardonnent dans leurs prières. Les primates au cerveau réduit fredonnent à l'unisson. Chorale de détresse fait résonner chant de coton. Récital du forçat symphonide. Lamentation, le blues existait déjà avant de porter un nom. Pigmentation hors la loi. Perpétuité, on purge des peines parce que le pourpre ça part pas. Le pourpre c'est l'ADN. Marquage offert, code barre. Sur le bétail en cage, on trouve les premiers tatouages gorés ou Zanzibar. Business florissant, les marchés nous prennent pour amants. Cette relation de jeunesse a fait 400 ans. La langue ventouse est effritée. Dans les déportations, on chante avec le patois du colon. Dans les plantations, notre âme est annulée. Notre corps est chosifié. Pourpre, on est mobilier de décoration. Les mains nues, on perd toujours face aux détonations. Attendant d'avoir un fusil, on chante en canon. Parce qu'on est plus rentable, le propriétaire nous exécute façon militaire pour y poster en signe déclamation de guerre. dans la maison du boss, sous le plancher, galerie d'un mètre de haut pour se déplacer, obligé de se pencher, entassés les uns sur les autres, du crépuscule aux aurores. On a habité des cercueils avant de connaître la mort. On chante pour tenir debout sans canne à sucre. On chante, mais comme notre condition, les notes ne sont pas juste cordes vocales pourpres. Nous, les chanteurs, chanteuses, on voit un bourreau, cœur de pierre, créer nos voix rocailleuses. Coup de fouet, la douleur joue un spectacle en répétition. Les enfants sur le dos des rides et de lacération. Le charme des chansons pourpres, c'est de pas faire dans la séduction. On ne cherche pas à plaire, on cherche des armes de sédition. On crie pour surplomber le son de chaîne illimitée. Les captifs chantent pour fuir un périmètre d'insécurité. Sentiment amoureux, pas vraiment besoin de le cultiver. Faut juste se reproduire par souci de productivité. Du scat mélopé pour pracapella. On hurle nos martyrs, on interprète nos opéras. Sur des rythmes syncopés, on dévoile une omerta. C'est une danse, c'est pas une insulte, la bamboula. La mer est pourpre, les plus faibles finissent par-dessus bord. Le navire vogue, mais l'humanité a fait naufrage. Alors on s'égosille en continu pour conjurer le sort. On ne chante pas la culpabilité, on chante le témoignage.
De la sécurité sociale détruit un outil qui aurait permis de faire face et certainement avec un confinement moins sévère, un appel un peu plus grand à l'intelligence et à la démocratie. Bah, la démocratie, parlons-en, voyez ce qui se passe. Il y a des maires, des élus et des commissions de travail avec les citoyens qui ont mobilisé leur commune où tout le monde a des masques. Puis voyez, moi, je viens seulement de recevoir, là, ce lundi, faites attention à votre santé, soyez solidaires, voilà. Mais la commune n'est jamais venue voir les vieux, ici, à Les Pins ou ailleurs, qui étaient confinés. Alors, si vous avez d'autres informations, bah, faites-en part à la radio. Mais ici, c'est silence radio, démerdez-vous. Par contre, il y a des démocraties locales, des maires avec des conseillers municipaux et avec des commissions citoyennes, des élus de listes citoyennes qui se sont bougés le train tout de suite avec les sociétés, d'aide aux personnes en difficulté, ou au Secours Populaire, Secours Catholique, Banque Alimentaire, pour que personne ne manque de rien et qu'on contacte les personnes isolées et fragiles. Parce qu'il y a plein de gens qui sont dans une merde noire. Et ça se payera, j'espère, un jour. Donc voilà, le coronavirus est une maladie de la croissance industrielle mondialisée. On nous prend pour des cons, parce que si on devait dire le nombre de morts par obésité aux États-Unis, ben ce sera à peu près par an, hein. Ça sera certainement 4 ou 5 fois le coronavirus. Si on disait en France les morts du tabac, c'est 77 morts. Si on disait en France le nombre de morts que génère la pollution des bagnoles, des camions, du tout camion, des autoroutes, c'est 55 000 morts, chiffre minimum. Il y a d'autres estimations qui disent c'est 80 000 morts par an. Jamais on atteindra ce chiffre-là. Bien qu'on soit déjà à 20 000, c'est en train de se tasser. Donc, attention, Parce que toutes ces pollutions de notre société capitaliste, industrielle, mondialisée, globalisée, en pleine accélération de destruction de la nature et de fourniture de gadgets absolument inutiles, cette société-là, pour faire des ronds à des actionnaires, à des milliardaires, à des millionnaires, hein, qui mettent leur pognon dans des grandes sociétés qui rapportent de l'argent, comme le pétrole, comme les portables, etc., eh bien, ce monde-là, je crois que la crise du coronavirus le met en lumière. Voilà. On est en train de se rendre compte qu'il y a non seulement la destruction de la nature, il y a le saccage des biens communs comme la sécurité sociale, il y a la tyrannie de l'État et la non-démocratie, parce qu'il y en a un, deux qui causent, et qui choisissent leurs experts pour faire oublier qu'ils n'ont pas su prévoir ou sauver, ce qui était le cas avant, on peut dire ce qu'on veut, de Bachelot, hein. Elle était dans l'industrie pharmaceutique, elle s'est sucrée sur les, je vais pas dire qu'elle s'est sucrée personnellement, j'ai pas envie d'avoir des ennuis, mais disons qu'elle a largement sucré les industries d'où elle venait en commandant un nombre totalement disproportionné, vraiment à l'époque, de vaccins. Par contre, elle avait mis 500 millions de masques de côté. On les a liquidés, ou alors ils ont dormi on les retrouve 6 mois après, on sait pas trop où ils sont. Vous voyez, un État qui ne gère au fond que la start-up nation, la naissance de nouvelles entreprises, l'électronique, etc. Et puis bien sûr, non seulement c'est cette tyrannie, mais c'est la tyrannie de l'électronique. Vous savez que vous avez perdu vos téléphones fixes à cuivre, tout est électronique, tout est Internet maintenant. C'est une catastrophe qui nous pend au nez, qui sera certainement bien pire que le coronavirus. C'est le fait que nous sommes entièrement dépendants désormais des fils d'Internet, c'est-à-dire... Nous sommes dépendants des liaisons satellites, nous sommes dépendants des câbles sous-marins, de la fibre, surtout des data centers, c'est-à-dire ces grands immeubles dans lesquels il y a des grands disques durs qui tournent, qui font une chaleur énorme, qui consomment désormais à Paris 22% de toute l'électricité de Paris, dans le monde plus de 10% de l'électricité du monde, mais ça n'est rien, puisque c'est essentiellement... une surveillance inimaginable qui est en train de se mettre en place, puisque Macron a donné l'ordre, non, il n'a pas donné l'ordre, il a donné l'autorisation aux principaux opérateurs téléphoniques d'envisager comment on pourrait suivre à la trace, à partir du déconfinement, les gens pour savoir qui infecte qui. Oui, mais si ça paraît à un moment, ils l'ont fait en Corée du Sud, si ça paraît opératoire pour, localiser et réduire les foyers d'infection, on comprend bien hein, qu'une personne infectée sorte, en infecte 3 autres, qui en infecte 3 autres, etc. Si on a une application qui peut faire voir ça, on dit tout de suite, hop, aux échelles, il y a un cas qui est en train d'infecter tout le monde, stop, on confine tout ça, et on confine les échelles. Point. Mais on confine pas, pompe aux voisins, voilà. Mais le problème, c'est que si ça paraît sympathique, c'est qu'on va garder nos données personnelles. Et du coup, à l'avenir, quand vous voudrez aller à une manifestation à Chambéry, ben vous serez tracé complètement de A jusqu'à Z. Hein, ils ont les moyens désormais, par nos portables, de tracer absolument tout ce que nous faisons. Et là, c'est hallucinant que ce coronavirus, qui est une maladie et industrielle et numérique, c'est le désastre de la vie assistée par Internet, par l'ordinateur. Alors, il y a plusieurs façons de nous dominer. Hein. Il y a la vie administrative. Hein. Alors là, c'est épouvantable. La Sécu, le fisc, la CAF, les impôts, tout le monde exige. Or, il y a 25 millions de personnes qui ont du mal avec l'ordinateur et 15 millions qui ne sont pas connectés à Internet. Donc, c'est une véritable souffrance pour ces gens-là de prendre leur clic et leur claque, d'aller dans un centre social ou de se faire assister. Bref, voilà, ça, c'est une violence. Deuxièmement, les abonnés d'énergie et télécommunications, ben, on a toutes vos coordonnées historiques d'appels. Par exemple, si vous avez le compteur LinkedIn, moi, je l'ai refusé, plein de gens l'ont refusé, et je n'en veux pas, et je n'en aurai jamais. Eh bien, si vous avez un compteur LinkedIn, vous êtes tracé, on sait à quelle heure vous rentrez, vous mettez le chauffage, etc. Ça, c'est un deuxième traçage. Troisième traçage, c'est tous les services et sites web que vous utilisez. Alors, je sais, hein, il y a 700 milliards de connexions pornographiques. C'est hallucinant. La culture du capitalisme capitaliste, c'est consommer, 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 bien-être, 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 moi. Et du coup, quand vous regardez ce que l'on consomme, 8 millions de poupées gonflables pour les hommes, 15 millions de godes de Michet pour ces dames, les sex toys, j'ai horreur de l'anglais parce que c'est le signe de la domination de l'impérialisme américain sur notre langue, notre belle langue française. C'est une colonisation mentale. Donc moi, je dirais jamais sextoy, je dirais God Michet, qui a une racine latine. Eh bien, quand on voit que toute la société se précipite vers des formes de vie qui sont entièrement consuméristes, centrées sur le bien-être individuel, voire jusqu'à l'abrutissement avec la cam... qui circule librement, parce que franchement, je vous dirais, la meilleure façon de tuer l'énergie vitale d'un peuple qui se révolte, c'est de lui laisser fumer comme des malades des pétards à 45% de THT, comme c'est le cas de plus en plus avec le cannabis, ou de laisser rentrer le crack, etc. Vous savez que aux États-Unis, on a détruit les Black Panthers, qui avaient 200 personnes dans une espèce de comité central très bien organisé. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en sorte que des filles, très bien, du FBI et de la police, viennent fréquenter ces jeunes gens noirs, et leur instillent la consommation de drogue. Ça a désarticulé en 2 ans l'ensemble de leur machine de guerre sociale, et comme ça, on les a eus. Eh bien, voilà, le système n'hésite pas à protéger ses propres enfants, hein. Vous savez que ceux de la Silicon Valley, là, tous ceux des GAFAM, Amazon, Facebook et compagnie, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils interdisent à leurs enfants l'usage de l'ordinateur et des écrans avant 12 ans. Nous, en France, on gave les petits pour être tranquilles, faire la vaisselle peinard. On les gave d'écrans, de portables, de machins qui leur pourrissent le cerveau et surtout qui les rendent débiles. Ben voilà, et en plus, voilà. Notre équipement informatique est très bavard, ils transmettent des données à notre insu. Voilà, ça c'était le troisième point, c'est que nous sommes fichés, suivis à la trace. Il y a même une application israélienne, Grex, je crois, renseignez-vous, qui nous permet, à notre insu, quand on télécharge, d'avoir un logiciel qui va enclencher l'écouteur, l'enregistrement, ce qui fait que vous, ce que vous faites, des personnes mal intentionnées, ça peut être votre mari, hein, s'il a réussi à se procurer la fameuse application, peut écouter ce que vous faites de 5 à 7. C'est absolument hallucinant pour nos libertés individuelles. Non seulement la police, non seulement l'hélicoptère, mais aussi toute cette surveillance électronique. Voilà. Et donc, c'est le désastre de la vie numérique, dont je dis un petit mot à propos de Facebook, mais dont je dirai un autre grand mot lors d'une prochaine élection, une prochaine émission, si vous le voulez bien. Voilà, et tout ça nous met aussi dans la fragilité extrême. Alors, tout le monde a compris qu'il allait y avoir pénuries alimentaires cet hiver. Vous avez vu qu'au Cambodge, de 3 récoltes, on est passé à 2 récoltes. Je pense que tout le monde a bien vu en Chartreuse, au pays de Pont-de-Beauvoisin et ailleurs, que nous avons eu 40 jours de sécheresse intense. Moi-même, qui ai du jardin tout autour de la maison, à l'Épin, qui est une vieille baraque, je cultive comme un malade tout ce qui peut être cultivé. L'ennui, c'est que, voilà, si j'avais pas un puits, je crois que j'aurais tout perdu, parce que c'est une sécheresse incroyable qui a même craquelé le sol. A-t-on jamais vu ça, en mois de mars et au mois d'avril, que l'on ait 40 jours sans une goutte de pluie? Certains endroits, 2 mois. Eh bien, tout ça, ça va se payer très cher, parce que la sécheresse, le changement climatique, qui vont tuer des milliards de personnes, si ça s'emballe comme ça semble être le cas, en tout cas des dizaines de millions, voire des centaines de millions, ça va être de la famine. Hein, parce que là, elle pointe son nez dans les pays africains. On est passé de 800 millions de crèves la faim à 1 milliard en quelques années. Eh bien, une grande partie tient à ce changement climatique, lui-même produit par quoi? Par les 2/3 des multinationales qui gèrent le monde, et pas par vous qui faites votre trajet en bagnole, quoique. Hein, il serait bien qu'on ait des tramways comme on avait avant et des systèmes de transport comme le TER qu'on avait avant. Et maintenant, on n'a plus que 2 cars entre Saint-André, le gaz et Chambéry. C'est hallucinant qu'au moment où on en a le plus besoin, ben, on n'a plus rien. Donc, il va falloir se bagarrer quand on va être déconfiné. Et donc, on a proposé à Pont-de-Beauvoisin un collectif qui existe maintenant avec Confaysanne, Gilets jaunes, La Seine et quelques autres électrons libres. un collectif qui est des légumes pas de bitume, des terres pas d'hyper, contre le doublement de la baronnie. Et bien là, il va falloir se mobiliser. Et donc, nous avons proposé à quelques-uns, c'est en discussion, on va voir ce qu'on va faire, de faire une grande fête d'un confinement avec des ateliers, comment se faire à manger, comment arrêter au niveau municipal, à obliger les nouvelles équipes à arrêter d'urbaniser et de reconvertir les terres constructibles au PLU en terres agricoles, comment que les communes installent ces terres, les rachètent, installent des paysans ou bien installent des coopératives ou bien installent des régies publiques alimentaires, de sorte qu'on a au moins de quoi passer l'hiver avec des poireaux, des patates, des oignons, bref, des topinambours, des courges, vous voyez, je fais des pommes, tout ce qu'il faut pour passer au moins à l'hiver, dans des conditions correctes, comme auparavant, les gens, c'est leur stock de nourriture, ferme par ferme, village par village, et voilà, et ben on en est rendu là, la mondialisation est en train de s'effondrer, sauf bien sûr les compagnies high-tech qui vont essayer de tirer les fils, c'est le cas de le dire, pour nous enserrer dans une prison de surveillance inimaginable. Cette fragilité extrême de l'approvisionnement agroalimentaire, vous le sentez déjà dans la hausse du prix du blé, des pâtes, des farines, voilà, eh bien, c'est clair, hein, quand on a pollué le sol, quand on a mis des produits chimiques, c'est clair que la sécheresse, elle détruit c'est le peu qui restait de sol. D'ailleurs, 90% de nos sols sont fichus. C'est plus que du sable sur lequel on met des engrais et des pesticides et des cultures à standard hybrides pour pouvoir faire pousser, quoi, voilà. Tout est à réhabiliter et la réhabilitation ne se fera pas d'en haut par des décrets, elle se fera d'en bas par des gens qui vont se mobiliser, comme le savent si bien le faire en Chartreuse, où je suis assez intéressé par tous ces mouvements dont le parc naturel de Chartreuse là est un partie prenante, qui consiste à retrouver les fruits oubliés, les légumes oubliés, et de, alors là c'est plus timide, mais certains élus le font, de remettre en agriculture tous ces espaces où on se nourrissait très bien en Chartreuse auparavant. Call it despair, baby. Watch 2,000 sunsets for 10,000 hours of the night. I would just think of you.
You're mad. Leave me alone. Hello, one of them.
What about the man with the black bag who was keeping a watch in this building?
Oh, he left a few moments after you departed.
It only looked that way.
Voilà. Alors pour l'énergie, bon, on en a déjà parlé un petit peu, hein, alcool de bois, gaz de bois, un peu de gazogène et des quelques chutes comme Voiron qui a récupéré une chute d'eau pour se faire un peu d'électricité. Il y a peut-être 1000 façons de faire, à condition que tout ça soit pas gaspillé dans des grandes surfaces qui consomment des fortunes en matière d'énergie pour rendre leur température fraîche l'été et très chaude l'hiver. Ben ça, on n'en a rien à cirer. Tout ça, ça doit s'effondrer. Et j'ai une proposition honnête à faire. C'est que ce qu'on pourrait faire, ce que l'État pourrait faire avec l'immense crise économique qui s'avance, hélas, en France, on a déjà la moitié des salariés, c'est-à-dire 9 millions de personnes qui sont en travail temporaire. C'est absolument hallucinant. Il paraît qu'on a perdu 160 milliards de PIB. Bah, si c'est 160 milliards parce qu'on n'a pas fabriqué d'armes, tant mieux, puisque ça compte dans le PIB. Si dans ces 160 milliards, il y a moins d'accidents de bagnole, bah, tant mieux, parce que ça compte dans le PIB. S'il y a moins de production de pétrole et de pourriture chimique, et bah, tant mieux, ça compte dans le PIB. Mais d'après une autre information ce matin à une radio qui nous raconte beaucoup d'histoires, qui est France Info, il semblerait que c'est 30% du PIB de la France. Alors, le PIB de la France, c'est 2000 milliards par an. C'est la valeur ajoutée, hein, de tout le travail de tous les Français pendant un an, quel que soit le domaine, hein, l'armement, la réparation de bagnoles, tout. Eh bien, si c'est 30%, c'est pas 160 milliards, c'est un tiers de 1000 milliards, c'est-à-dire c'est 180 milliards. C'est plus que ça, c'est un tiers, c'est 600 milliards. Alors, ça m'étonnerait qu'on ait perdu 600 milliards en si peu de temps, mais si on a perdu 160 milliards, c'est pas on qu'on a perdu. C'est des industries extractives, c'est le complexe militaro-industriel, c'est cette espèce de méga-machine où on produit pour produire, non pas pour produire, mais pour faire du bénéfice aux actionnaires. Ben, c'est avec ça qu'il faut en finir, les amis, et j'espère que nous aurons l'occasion d'y revenir et de faire... un sorte d'exode urbain et de venir repeupler des campagnes, des villages, refaire de la vie conviviale comme avant, mais pas comme avant, puisqu'il y aura des petites machines low-tech, légères, tractées par des chevaux et qui nous feront des semoirs et des activités parfaitement allégeant la peine des hommes, mais sans détruire la planète ni nos conditions de vie. Voilà ce que m'inspire un petit peu le corona. Dans cette base-là, donc soyez au rendez-vous peut-être pour empêcher le doublement de la zone de la Baronnie, l'extension de toutes les grandes surfaces, que ce soit à Saint-Laurent et ailleurs, ce soit à Novalais ou ailleurs, et exiger de vos élus qu'ils arrêtent immédiatement tous les PLU en cours et que toutes ces terres soient, ils peuvent le faire, soient reconverties en terres agricoles, que sur ces terres agricoles, on donne en priorité aux habitants les plus pauvres ce qu'on appelle des jardins collectifs pour pouvoir cultiver ensemble. Un paysan ou deux ou trois bien sympas viendra bien retourner la terre, amener du fumier et du foin, histoire de faire travailler le sol et le réamender, de le remettre de la vie. Et ensuite, eh ben, tout le monde bricolera là-dedans. On pourra dire, tiens, on fait des rangées de poireaux, de patates, pommes de terre pour l'hiver, ou bien on stocke des carottes. Et voilà, il y a des façons de stocker qui sont incroyables, je vais le faire moi-même, c'est d'avoir un tas de sable, et dans ce tas de sable, vous mettez les carottes, les navets, vous mettez les patates, vous mettez les betteraves, vous mettez tout ce que vous voulez, et vous laissez comme ça une petite bâche au-dessus, si vous voulez que ce soit un peu moins humide, et ça passe parfaitement l'hiver, et quand vous avez besoin des carottes, vous tirez dans le tas. Et ça, c'est fabuleux, parce que ça ne mange ni électricité, ni gaz. Et plein de paysans le faisaient à la fin de la guerre, dans mon patelin, du Nord-Isère, où j'habitais, où on faisait la batteuse à vapeur, etc. Alors, je suis pas nostalgique. Je suis juste qu'on peut vivre bien avec beaucoup moins. Et surtout que les plus riches, eux, ils vont devoir aller cracher au bassinet pour que les autres puissent vivre. Car pour que tous puissent vivre, il faut qu'il y en ait qui cessent de se gaver, notamment en étant propriétaire de ceci, propriétaire de cela. Donc il y aura un gros travail à faire, je pense. Alors peut-être qu'on peut terminer là-dessus. Il faut gripper la méga-machine, carrément. Alors j'avais commencé par 3 émissions sur la mondialisation. Ce qu'il faudrait, c'est quand même démarchandiser la terre. Alors, on vient d'en parler. démarchandiser la monnaie. Il faut que l'État français retrouve la monnaie, la batte, et que la Banque de France refasse sa monnaie, même si on reste dans un serpent monétaire européen, qu'on ait notre propre monnaie, qu'on sache contrôler nos frontières, qu'on sache également démarchandiser le travail, soit, alors avec, il y a différentes hypothèses, hein, Friot, c'est une sécurité sociale généralisée, le salaire à vie, et voilà, qui suppose que, en quelque sorte, on exproprie toutes les entreprises et que la plus-value des entreprises serve à payer un salaire à vie, que ce soit en reconversion ou autre. C'est assez crédible, c'est à discuter, je n'en suis pas toujours convaincu, parce que je me demande bien comment on va y arriver. Il y a une autre façon de faire qui peut être de nationaliser, mais méfions-nous, les copains, de nationaliser, parce que ce que demande aujourd'hui des capitalistes, c'est qu'on les nationalise, c'est-à-dire que vous, votre pognon va servir à sauver leur entreprise, et puis ils commencent à poindre l'oreille, là j'ai entendu le NCNPF, disons le MEDEF aujourd'hui, dire gentiment, ah oui mais après on reprendra nos entreprises, ah oui d'accord, donc pour les pertes, c'est l'État qui va nous nationaliser, puis après on rendra l'entreprise au privé, hein, et pour qu'ils fassent du jus. Mais nous, les habitants, on aura payé les pertes de l'entreprise privée pour faire du jus à ses actionnaires privés. Voilà comment ça va se passer. Deuxième souci avec les nationalisations, on a vu l'expérience des pays socialistes, ou ex-socialistes, ou dits socialistes, ou ex-communistes, ou dits communistes, parce que je préfère qu'on dise dits communistes, parce qu'ils ont déjà été communistes, eh bien, ils ont fait du capitalisme d'État, c'est que si tout est nationalisé, tout est géré par une intelligentsia de crétins diplômés qui gère à la tête de l'État, vous avez vu comment ils ont fait, en faisant de la France le pays tout nucléaire, en faisant de la France le pays... toute révolution verte, chimique et agro-industrielle, en faisant de la France le plus grand pays du monde pour les grandes surfaces. Bref, il faut arrêter avec ça. Et je ne fais pas confiance, moi, à l'État pour gérer l'industrie. Je ferai beaucoup plus confiance à des collectivités comme les Comcom de Chartreuse pour qu'il y ait 2, 3, 4, 5 000 habitants qui gèrent, alors patelin par patelin, qui gèrent leur crédit. Leur crédit bancaire, qui soit nationalisé à Paris, d'accord, mais qui soit en gestion locale, qui gère leur sécurité sociale aussi, hein, que ce soit les travailleurs, les employés, les salariés, les artisans, les commerçants, qui gèrent leur sécu locale, et que, si vous voulez, tout ce qui concerne l'alimentation, etc., soit discuté entre les Comcom, non pas en Comcom, parce que ça, c'est la dernière crétinerie du système inventé par ceux d'en haut pour empêcher ceux d'en bas de s'occuper de leurs oignons et de planter des oignons, justement, c'est de faire des com-com. Alors, c'est des empilements de structures qui coûtent la peau du cul et qui servent qu'à faire qu'une petite bureaucratie de d'élus se mette le pognon dans la poche. Hein. Je vous rappelle qu'un président de com-com, c'est quand même en général plus de 1000 euros, même chez nous, là, dans la petite communauté. Voilà, quand vous êtes dans une commission, bah, c'est 300, 400, 500 euros. Si vous êtes à Valence, vous êtes maire, c'est 5000 euros. Hein. Si vous êtes maire adjoint, c'est 2000 euros. Et si vous êtes dans une vice-président, de la Comcom, ben c'est encore 1500 euros. Si vous êtes simplement membre d'une commission, ben c'est encore 700 euros. Bref, aujourd'hui, l'élection, c'est une course à l'échalote. Stop à tout ça. On fait de la démocratie directe. Et c'est ce que m'inspire le coronavirus. C'est que là où il y a la démocratie directe, les vieux ont été visités. C'est la meilleure façon de dire, voilà, on se réunit sur la place du village, on se réunit à la salle des fêtes, on fait des commissions et on discute qu'est-ce qui serait le mieux pour nos enfants, quelle éducation, qu'est-ce qui serait le mieux pour qu'on passe l'hiver dans les meilleures conditions, quelles belles fêtes on peut inventer, comment on échange les savoirs, etc., etc. Bien sûr, avec le soutien non pas de l'État centralisé, mais de banques décentralisées, avec des moyens décentralisés, qu'on rétablisse le tramway entre Saint-Égrève et Saint-Biron, qu'il y avait autrefois, et qu'on aille faire son marché avec ses poules et ses canards, comme autrefois, dans le tramway, et non pas dans ces putains de bagnoles qui puent, qui tuent, qui polluent, en rappelant qu'il y a 900 millions de bagnoles et qu'elles font, elles toutes seules, autant de gaz à effet de serre que les avions. Et pour les avions, ils sont cloués au sol. Eh ben, je suis très heureux qu'ils soient cloués au sol. Et je voudrais bien qu'on n'aille pas vers les 7 milliards de passagers qu'on envisage pour 2030. On en est déjà à 3 milliards 500 millions de passagers, 1 milliard 700 millions de touristes qui prennent l'avion. Écoutez les copains, j'ai pris l'avion 5 fois dans ma vie, conscient de ça, hein. 5 fois dans ma vie, et ben c'est bon, on arrête. Voilà, je me mets devant Arte, je regarde pendant le confinement Invitation au voyage avec la sublime Linda. Linda, ben, elle m'emmène voir le Machu Picchu et je visite sous tous les angles. Je suis pas emmerdé par 5000 Américains ou Européens qui vont crier « Hey, it's beautiful !» etc. comme quand j'ai visité la chapelle Sixtine à Rome où j'ai été emmerdé par des milliers de fanatiques hystériques gueulant devant la Pietà de Michelangelo, alors que désormais, devant mon écran et avec des enfants, on a des documentaires absolument splendides vus sous tous les angles et qui coûtent un minimum de dépenses énergétiques, alors que si je prends l'avion jusqu'à New York, j'ai jamais vu New York et je m'en fous complètement, hein, que c'est haut New York, et ben qu'il y a, que ça reste haut, ça va tout s'écrouler dans quelques années, et bien New York c'est haut, ben je m'en fous, parce que New York aller-retour c'est 2 tonnes de CO2. 2 tonnes de CO2, c'est quasiment un cube qui ferait le quart de la Chartreuse en voilà. Par personne, hein, naturellement, hein, par personne. Si vous allez voir la muraille de Chine, bah c'est 4 tonnes, c'est vous êtes un criminel de climat. C'est ce que je dis à quelques-unes de mes relations familiales qui, bien sûr, supportent très mal ce discours, naturellement, puisque après le confinement, il sera temps de reprendre l'avion, de se gaver de portable, de bouffer des pizzas à 1 euro à chez Lidl, et vite de reprendre son SUV pour aller faire ses courses en supermarché, et de vite demander quand est-ce que le terrain va être disponible pour construire une maison à 400 000 euros autour de l'Étain-le-Lac et autour du lac, afin que celui-ci soit mort dans 30 ans. Je vous souhaite bien du courage et du bon temps après le confinement, à commencer par nous bagarrer tous ensemble pour une meilleure vie devant, on peut dire, ces emblèmes de la richesse qui se révèlent absolument ridicules face à la maladie et à la mort. Merci, à bientôt.
C'était La Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.